Nous reprenons, si vous voulez bien, et je vous présente notre invité pour le séminaire d'aujourd'hui, qui est Vincent Deban, qui est assistant professeur à l'Université de Columbia, à New York, et qui est cette année en congé de son université, qui est à Paris et qui est à ce qui s'appelle l'Institut d'études avancées, qui est une nouvelle institution parisienne, pour rassembler des chercheurs. Il y fait un séminaire en ce moment, et qui est un peu le sujet de ce dont il va nous parler aujourd'hui. Alors, Vincent Deban a fait une thèse à la Sorbonne il y a quelques années, soutenue il y a quelques années, qui portait sur les relations entre la littérature anthropologique du XXe siècle et la littérature littéraire. C'est une thèse que j'ai eu l'honneur de diriger à la Sorbonne et qui était d'une très très grande qualité, enfin, qui a fait de lui vraiment le meilleur spécialiste de la littérature anthropologique française. Et c'est pourquoi il a eu, lui, l'honneur de participer, d'être vraiment le maître d'œuvre de l'édition de la Pléiade de Claude Lévi-Strauss, qui a été publiée il y a tout juste 2 ans. Et il est donc l'éditeur dans la Pléiade de Lévi-Strauss de Triste Tropique, qui est le grand morceau, le chef-d'œuvre de cette édition. Il a également publié un livre sur Lévi-Strauss dans la collection Découverte, Gallimard, l'année dernière. Et après qu'il a achevé cette Pléiade, il s'est remis à ce qui avait été sa thèse sur la littérature anthropologique, et l'ouvrage est maintenant terminé. Il paraîtra à l'automne 2010 aux éditions Gallimard dans la très prestigieuse collection des sciences, Bibliothèque des sciences humaines. Et donc il va nous parler aujourd'hui de cette écriture de la vie dans la littérature anthropologique du XXe siècle. À vous.
Merci. Bon, merci pour ces mots. Je voudrais avant toute chose remercier donc Antoine Compagnon de m'avoir invité. Je suis très honoré de parler en ces lieux et devant une assemblée aussi nombreuse. Très honoré également de succéder à des représentants aussi éminents des sciences sociales que sont Arlette Farge et Alain Corbin. Donc, je voudrais m'inscrire aujourd'hui dans la perspective tracée par le cours l'année dernière et cette année, et m'intéresser donc à l'écriture de vie, selon la formule du cours, l'écriture de vie en ethnologie et en littérature. Plus exactement, je voudrais montrer que c'est précisément autour de ces questions, peut-on écrire la vie, comment écrire la vie, que l'ethnologie et la littérature se croisent et se rencontrent. Alors, il faut d'abord que je dise un mot de cette proximité entre anthropologie et littérature, qui est une singularité française. Dans aucun autre pays, on observe des échanges aussi nombreux, aussi variés, entre cette discipline savante, l'anthropologie ou l'ethnologie, d'un côté, et la littérature, de l'autre. La littérature au sens large, c'est-à-dire la littérature à la fois comme un corpus, comme des auteurs, et aussi la littérature comme pratique d'écriture. Alors ces échanges, ils sont bilatéraux, en quelque sorte, ils sont réciproques, on peut dire, ils vont dans les deux sens. D'une part, parce que les ethnologues français s'intéressent à la littérature. Et il témoigne d'un véritable souci de l'écriture. Bon, l'exemple qui vient le plus vite à l'esprit, c'est évidemment celui de Lévi-Strauss, mais on pourrait en citer d'autres, qu'on tirait par exemple de la fameuse collection Terre humaine des éditions Plomb. Et d'autre part, parce que les écrivains s'intéressent à l'ethnologie dès la fondation de la discipline, hein, et ils revendiquent aussi souvent une ambition anthropologique. Les surréalistes lisent Lucien Lévi-Bruhl, La mentalité primitive dès les années 20. Georges Bataille veut généraliser L'essai sur le don de Marcel Mauss dans La part maudite en 1947. Et Roland Barthes, par exemple, commente abondamment La pensée sauvage ou Le totémisme aujourd'hui de Claude Lévi-Strauss. Et alors, il y a un nom qui incarne plus que tous les autres ces échanges, cette proximité, cette circulation, c'est celui de Michel Léris. Michel Léris, surréaliste défroqué en quelque sorte, qui participe à la première grande expédition ethnographique collective française, la mission Dakar-Djibouti entre 1931 et 1933, et qui, au retour de cette mission, exercera ensuite, comme il le dit lui-même, deux métiers, le métier d'écrivain et le métier d'ethnologue attaché au Musée de l'Homme. Donc, à la source de cet intérêt réciproque de l'ethnologie pour la littérature et de la littérature pour l'ethnologie, il y a ces questions partagées, comment écrire la vie, peut-on écrire la vie, qui sont bien sûr des questions d'écrivain, mais qui sont aussi des questions d'ethnologue, parce que l'ethnologue doit rendre compte de formes de vie étrangères, décrire des sociétés souvent très différentes de la sienne propre. Alors, cette formule « écrire la vie », elle sonne un peu comme un défi. Elle suppose sinon une opposition entre les deux termes, « écrire » et « la vie », en tout cas une crainte ou un soupçon, hein, qu'il y ait quelque chose de la vie qui ne puisse pas s'écrire, quelque chose de la vie qu'on ne parvienne pas à écrire. Il s'agit donc de trouver une écriture qui ne trahisse pas la vie, hein, qui l'embrasse tout entière. Et je pense qu'il est important de conserver, au moins dans un premier temps, une formulation aussi vague, parce que c'est précisément comme ça que le problème se pose, c'est ce qu'on va voir, à la fois pour les écrivains et pour les ethnographes. Voilà, donc je vais envisager successivement ces deux aspects, hein, les deux aspects de cette relation, la littérature vers l'ethnologie, de l'ethnologie vers la littérature, avant d'évoquer, sinon les résultats, disons les réflexions auxquelles cette relation a pu donner lieu. Alors je commence donc par le premier aspect, l'ethnologie. L'ethnologie, c'est une discipline qui s'impose en France à la fin des années 20, au cours des années 30, avec d'abord la fondation de l'Institut d'ethnologie de Paris en 1925, puis la réorganisation du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui était un vieux musée qui avait été lui-même construit en 1878. Musée d'abord réorganisé en 1929-1930 et finalement démoli pour laisser place à ce qui deviendra le Musée de l'Homme, lui-même ouvert en 1938. Donc on peut déjà noter juste en passant que ce sont précisément les années au cours desquelles prend essor ce qu'Antoine Compagnon a identifié comme une doxa moderne qui postule l'impossibilité de réconcilier l'écriture et la vie. Alors, le cœur de la nouvelle discipline, de l'ethnologie, c'est l'exigence de terrain. Ça veut dire, tout simplement, qu'il ne suffit plus d'étudier, de comparer les données collectées par d'autres, missionnaires, administrateurs coloniaux. Il faut se rendre sur place et mener des enquêtes en personne auprès de ceux qu'on appelle alors les indigènes. Alors j'ai deux citations ici, deux phrases de Paul Rivet, qui était le cofondateur de l'Institut d'ethnologie de Paris et futur directeur du Musée de l'Homme. « Si l'heure est passée du curieux de la nature, qui s'intitule ethnologue, elle l'est également du savant qui médite dans son laboratoire, face à face avec des choses mortes ou avec des livres. L'un et l'autre risquent de se tromper ou de faire œuvre incomplète. Le premier parce qu'il ne sait pas assez, le second parce qu'il n'a pas vu. À l'un, il faut l'initiation scientifique, à l'autre, le contact avec la réalité vivante. » Et on voit d'emblée qu'ici, il y a une association entre les choses mortes et les livres. Et à cette association entre la chose morte et le livre est opposée la réalité vivante. Dans la deuxième phrase également, « Il ne faut plus proposer aux jeunes étudiants des sujets d'études livresques, mais les jeter en pleine nature, au contact des réalités vivantes, les orienter vers l'observation directe. » Et il y aurait quantité d'illustrations, pas seulement chez Rivet, mais aussi chez Marcel Mauss, chez Arnold von Genep, de cette description de l'ethnologie comme une discipline qui est située au carrefour, au croisement entre le livresque et le vivant. Alors, cette description de l'ethnologie permet de circonscrire l'activité de l'ethnographe par un double jeu de différences. À l'anthropologue de cabinet, l'ethnographe va opposer une connaissance enracinée dans les faits, dans une expérience personnelle, celle du terrain, loin de l'érudition suspecte de celui qui ne quitte pas la bibliothèque. Mais à l'amateur, au touriste dilettante, au voyageur, à l'écrivain voyageur, même à l'écrivain passionné d'exotisme, l'ethnographe va opposer son sérieux, sa méthode, son professionnalisme. Et donc l'ethnologie va postuler ainsi une sorte de cercle vertueux de l'expérience et du savoir. Le savoir est fondé en droit sur une expérience vécue, hein, celle du terrain, celle de l'enquête, et cette expérience vécue ne se dissout pas dans l'impression personnelle, dans les petits incidents subjectifs, hein, parce qu'elle est encadrée, elle est méthodique, et elle produit de la connaissance. D'où une sorte de scénario idéal, hein, à la fois le savoir, le sérieux de la connaissance sanctionné par le livre, et la vie pleine de l'expérience élargie, hein, contre les médiocres, contre les sédentaires, contre les savants qui ne quittent pas la bibliothèque. Et c'est d'abord de là que va venir la fascination des écrivains pour l'ethnologie. C'est une science, l'ethnologie, qui semble promettre une réconciliation du livre et de la vie. Si l'ethnologie a tant de prestige au début des années 30 auprès des avant-gardes, c'est d'abord pour cette raison. C'est parce qu'elle conjure la crainte d'une littérature qui serait devenue trop étroite, trop limitée, une littérature qui serait coupée de la vie. Et ça, c'est une angoisse qui est partagée par de très nombreux écrivains dans l'entre-deux-guerres. Qu'on pense à Breton, à Bataille, à Caillois, à Sartre. Il y a l'idée que, non pas que la littérature soit devenue impossible, mais que la littérature, elle est presque trop possible. Elle est devenue une sorte d'exercice un peu tristement esthétique. Alors, voilà ce que va dire Léris, juste avant de partir pour l'Afrique. « Je souhaite, si peu de goût que j'ai pour le prosélytisme, que le plus possible de mes amis artistes ou littérateurs, pour la plupart absorbés aujourd'hui par des préoccupations uniquement esthétiques, ou engagés dans des querelles stériles de groupe à groupe, fassent comme moi, qu'ils voyagent non en touristes, ceux qui voyageaient sans cœur, sans yeux, sans oreilles, mais en ethnographes, de manière à devenir assez largement humains pour oublier leur médiocre petite manière de blanc, ainsi que disent certains nègres, et ce qu'ils s'imaginent être leur personne intellectuelle. » Et 36 ans plus tard, Léris conserve ce récit. Donc dans Fibri, il écrit encore, « J'étais parti pour cette expédition en désirant tourner le dos à tout ce qui me paraissait n'être que méprisable esthétisme. » Alors, ce désir de réconciliation du livre et de la vie, ce désir de sortir de l'esthétisme, on va le retrouver dans toutes les autobiographies d'ethnologues. Bien sûr, dans Triste Tropique, dans Les Quatre Soleils, qui est le récit de Les Mémoires de Jacques Soustelle. On le trouve aussi dans des mémoires d'ethnologues plus jeunes, Georges Balandier, Georges Condaminas. Et c'est surtout une thèse que Marcel Griaule va défendre avec beaucoup de vigueur tout au long de sa vie. Je le cite, « La science, si longtemps reléguée dans des cadres austères et vieillis, commence à se réconcilier avec la vie, grâce à l'ethnographie. » Par exemple, dans Les Flambeurs d'Hommes, il raconte comment... Les Flambeurs d'Hommes, c'est un livre qu'il écrit en 1934, où il raconte sa première mission en Éthiopie. Et il raconte son émerveillement quand il découvre cette forme très ancienne de chrétienté qu'il étudie au Gojam, et il écrit ceci. « Tout cela a été l'illustration d'une hagiographie à potin, à merveille, un ruissellement de vie, une réconciliation avec l'érudition. On sortait de là le cœur bourré, le feu aux joues, les oreilles pleines de variantes et de contradictions. Quelle leçon pour les explorateurs de bibliothèques. » Voilà, réconciliation donc du livre et de la vie. On peut être un petit peu plus précis, en fait. Si l'ethnologie semble restaurer la dynamique vertueuse de la vie et du livre, si elle offre une issue hors de l'esthétisme, ça tient à deux choses. D'abord à sa méthode, ensuite à son objet. Alors je vais envisager ces deux aspects successivement. À sa méthode d'abord. Donc, comme je l'ai dit, là, le cœur de la nouvelle discipline, le cœur de l'ethnologie, c'est l'impératif de terrain. À la source de cette exigence, il y a une conviction théorique nouvelle, c'est que le fait social, qui est l'objet de l'ethnologue, c'est un fait moral, c'est un fait mental. Ce qui caractérise une société donnée, ce ne sont pas seulement les productions matérielles, les outils, les masques, la technologie, ce ne sont pas seulement ses règles de droit, son organisation sociale, mais c'est une mentalité, selon le mot de Lévi-Brulle. Durkheim, lui, parle plutôt de façon de penser, façon de sentir. Ça, c'est une expression qu'on retrouve chez presque tous les ethnographes des années 30. Mauss, lui, parle d'une tonalité morale. Ce qui caractérise une société, c'est un climat moral, une atmosphère sociale et morale. Et donc, on comprend bien pourquoi il faut se rendre sur place et pourquoi ça ne suffit pas de collecter ou de comparer les données collectées par d'autres. Il faut se rendre sur place pour s'imprégner de cette atmosphère, pour entrer dans ces façons de penser, ces façons de sentir. Et évidemment, l'idée d'une telle mutation mentale ne pouvait que séduire les avant-gardes. Il faut se souvenir, par exemple, que dans La Confession dédaigneuse, qui est un texte de 1925 de Breton, Breton assigne comme programme au surréalisme « Il nous faut inventer de nouvelles façons de sentir ». Donc, l'idée qu'on puisse penser des formes alternatives de pensée, qu'on puisse sentir des formes alternatives de sentir, en un mot, que l'on puisse sortir de soi, c'est une expression de Léris, évidemment, cette idée-là ne pouvait que fasciner une génération qui, de Bataille à Sartre, de Léris à Nizan, a le sentiment que la vie moderne, la vie des sociétés européennes, est une vie en quelque sorte amputée, pas complète, une vie qui est trop compartimentée, que les cadres dont les cadres d'expérience sont devenus trop étroits. D'ailleurs, on voit bien que pour Léris, voyager en ethnographe, c'est une façon d'oublier ce qu'on imagine être sa personne. Il s'agit véritablement de sortir de soi. Mais cette fascination qu'exerce l'ethnologie sur les écrivains, elle tient aussi à autre chose, elle tient aussi à l'objet de l'ethnologie. Et en particulier, enfin, là il y aurait beaucoup de choses à dire, mais disons, je vais retenir un seul des aspects. Les objets, c'est-à-dire les sociétés archaïques, les sociétés primitives, entre guillemets. Ce qui séduit les poètes et les écrivains dans les sociétés étudiées par les ethnologues, c'est d'abord la place qu'y occupe l'art. À la différence de ce qu'on observe dans les sociétés occidentales, qui réservent l'art au musée, l'art n'est pas, dans les sociétés archaïques, coupé des autres manifestations de la vie sociale. J'ai une série ici de petites phrases prises dans le manuel d'ethnographie de Mauss. Alors, le manuel d'ethnographie, c'est 1947, mais en réalité, c'est les notes, c'est un ouvrage posthume réalisé à partir des notes de cours que Mauss a délivrées à l'Institut d'ethnologie à partir de 1926. Donc Mauss explique très souvent que le phénomène esthétique est un mélange inextricable dans les sociétés archaïques. C'est évidemment une formule qui est de lui, le mélange inextricable. Voilà ce qu'il écrit. Dans les sociétés qui relèvent de l'ethnographie, l'effet de la poésie n'est pas seulement physique, mais aussi moral et religieux. L'importance du phénomène esthétique dans toutes les sociétés qui nous ont précédées est considérable. Nos sociétés sont en régression forte sur les civilisations précédentes à ce point de vue. Et un dernier exemple, cette littérature, la littérature des sociétés archaïques, compte généralement une signification extra-littéraire. Elle n'est pas dénuée de sens comme la nôtre. Le conte n'est pas destiné seulement au gain du littérateur ni à l'amusement du public, il est destiné dans une large mesure à dire quelque chose. Dans une audience juridique, l'aventure de l'araignée ou de la hyène peut servir de précédent juridique. Alors, on voit ce qui va fasciner les écrivains dans cette idée. C'est la possibilité de faire sortir l'art du musée, la possibilité de faire sortir la poésie des recueils de poèmes, la possibilité donc de renouer avec un exercice de la littérature qui, loin d'être tristement esthétique, aurait par exemple une fonction rituelle ou une fonction juridique, comme l'aventure de l'araignée ou de la hyène. Alors, Maurice Lennart, dans ce livre « Jean de la Grande Terre », par exemple, dont je vais parler tout de suite, enfin plutôt de la collection, il s'intéresse à l'architecture des maisons kanak. Et il a ce mot à propos des sculptures. Donc il étudie la symbolique des piliers qui soutiennent le toit. Et il dit ceci, « Ah certes, ils ne pratiquent point l'art pour l'art, les sculpteurs de la Grande Terre. » Et Léris, par exemple, dans ses notes pour le sacré, dans ses notes pour la conférence « Le sacré dans la vie quotidienne », à un moment, il utilise l'exemple du culte Zar, qui est un culte de possession qu'il a observé lui-même en Éthiopie, et il prend ça comme exemple pour rêver à un exercice de la poésie qui, je le cite, « tiendrait à la fois du dancing et de l'église, de l'hôpital et du bordel ». Alors, ces promesses de l'ethnologie, elles vont se traduire par une métaphore récurrente chez Léris et chez d'autres, c'est celle du livre germe, du livre ferment. Dans les parages du Musée de l'Homme, on trouve cette idée que l'ethnologie va permettre de produire à nouveau des ouvrages véritablement vivants, presque des organismes, des documents qui n'auraient pas perdu leur caractère actif, agissant, des documents qui seraient presque contagieux, qui pourraient, par une sorte de contamination, briser les cadres de l'expérience commune et restaurer une indistinction primitive entre l'esthétique, l'économique, l'érotique, etc. Et en 1937, Paul Rivet et Alfred Métraux fondent chez Gallimard cette collection, donc l'espèce humaine, collection d'ethnologie. Et la quatrième de couverture de cette collection, enfin c'est la même quatrième de couverture au dos de chaque ouvrage, se termine sur ces mots, je ne sais pas si on arrive à lire, rédigé exclusivement par des spécialistes ayant vécu en contact étroit avec les populations à l'étude desquelles ils se sont consacrés, la collection L'espèce humaine fait connaître au grand public sous une forme imagée et dépourvue de pédantisme quelques-unes des acquisitions essentielles de l'ethnologie. Mieux qu'une série d'aventures, de romans d'aventures, pardon, ou de récits de voyages plus ou moins retouchés, elle sera, en raison même de son authenticité, un ferment d'une vertu singulière pour l'imagination. Je reviendrai, on retrouvera cette expression de ferment. Il y a une autre formule un peu similaire qui dit cette utopie d'un livre qui aurait cette capacité, encore une fois, d'indistinction. C'est la formule de document vivant. On trouve chez Marcel Griaule, pardon, et aussi chez Léris. Alors, là, vous avez un extrait d'une lettre que Léris envoie à sa femme. Il est en Afrique. La première phrase concerne son propre carnet de route, et la fin concerne en fait tous les projets de publication qu'il aura à son retour d'Afrique. Voilà ce qu'il écrit. Je crois qu'il y aurait moyen de faire un livre étonnant, qui, tout en restant scientifique, pourrait être édité d'une manière littéraire. Me consacrer à tout cela, tous ces projets de publication, donc il y a son propre livre, son propre journal de route, mais il y a aussi le carnet de notes de son informateur, il y a un recueil de poèmes et de chansons qu'il a recueilli en fait, auprès d'une prêtresse Zar, le culte dont je parlais tout à l'heure. Donc me consacrer à tout cela au retour ne sera aucunement me renier, mais faire acte poétique. Cela n'aura plus rien à voir avec le surréalisme et le pittoresque de café, ce seront des documents vivants dont je me forcerai seulement de faire ressortir le caractère profondément poétique. Voilà donc pour le prestige de l'ethnologie auprès des écrivains. Des documents. Alors d'abord, l'idée d'une mutation mentale, l'idée d'une sortir de soi, et aussi l'idée de produire, la capacité de produire des documents vivants, des ouvrages vivants. Maintenant, je vais aborder le deuxième aspect, parce que comme je l'ai dit, les rapports sont réciproques. Et de la même façon qu'il y a un désir d'ethnologie chez les écrivains, il y a aussi un désir de littérature chez les ethnologues. Alors, bien sûr, ce désir ne s'avoue jamais comme tel. Lorsqu'ils parlent de leur science, lorsqu'ils font la promotion de l'ethnologie, les ethnologues ne cessent de dire que ce qu'ils font, ce n'est pas de la littérature, bien sûr, ce n'est pas de la littérature, c'est de la science. Les effets artistiques doivent être l'objet de la plus grande méfiance, écrit Marcel Griaule dans sa méthode de l'ethnographie. Il écrit un peu plus loin, « L'ethnographe emploiera un style froid, voire plat. Il sacrifiera tout effet littéraire à la précision. Il devra s'inspirer du style du code civil ou de l'article d'encyclopédie. » Et donc, le travail de l'ethnographe, ça consiste d'abord à récolter des faits avec méthode, sans souci de style, sans souci de plaire au lecteur, sans souci de séduire le public. Et donc tous les ethnographes retracent sans cesse la limite qui les sépare des écrivains voyageurs et de la littérature exotique. Et ils ont tous un ennemi commun à cet égard, c'est Pierre Loti. Il n'y a pas un ethnographe des années 30 qui n'ironise ou ne raille ou n'attaque les facilités du récit à la Loti. En apparence, ça paraît assez simple. C'est de la science, pas de la littérature. Mais on comprend aussi qu'en s'assignant un objet moral, l'atmosphère des sociétés, ou le climat moral de la société, ou la tonalité morale de la société, les ethnologues ne peuvent pas tout à fait renoncer à toute littérature. Et au début du manuel d'ethnographie de Mauss, c'est la première page, enfin, là, c'est la fin de l'introduction, on trouve cette phrase. Ça commence de façon attendue par des considérations sur la scientificité de l'ethnologie. L'intuition ne tient aucune place dans la science ethnologique, science de constatation et de statistique. La sociologie et l'ethnologie descriptive exigent qu'on soit à la fois chartiste, historien, statisticien et aussi romancier, capable d'évoquer la vie d'une société tout entière. Alors, ce remords final, le « et aussi romancier », qui intervient alors qu'on vient de nous dire que l'ethnologie est une science qui est une science d'enregistrement et de statistique. Ce remords final, il est caractéristique de l'ethnologie des années 30. Et on comprend pourquoi, parce que si l'ethnologue s'assigne pour objet de faire sentir les façons de sentir, alors cela requiert un travail de la langue. La restitution du climat moral exige un travail d'écriture. Et voici ce qu'écrit Métro. Donc Métro, au moment où il est... Alors à ce moment-là, il est en train d'écrire l'île de Pâques, le livre dont vous avez vu la couverture un peu plus tôt. Et donc il est à Honolulu, il est revenu de l'île de Pâques et il travaille au Bishop Museum, là-bas, dans les archives, et il écrit à Léris ceci. C'est-à-dire que l'ethnographe doit étudier sa tribu comme le ferait un romancier, et la faire vivre en usant des points de vue et des procédés du roman. Ne pas aller disséquer des hommes, mais étudier leur vie. Donner d'une tribu l'image de sa vie et ne pas disséquer son corps. présenter les rouages fonctionnants et non pas démontés et classés suivant des règles parfaitement arbitraires et empiriques. Voyez pour cela le cours de Mauss. Non, ce que je veux, c'est garder toute cette cuisine pour moi, mais donner aux autres la sensation de vie que doit produire le contact avec des hommes. Et tout le monde connaît la célèbre description du coucher du soleil hein, au début de Triste Tropique. Ça va être mon dernier exemple et je le réutiliserai ensuite. Donc, au début de Triste Tropique, Lévi-Strauss cite un morceau qu'il a écrit, une sorte des pages de carnet de route qu'il a écrite en mars 1938 sur le bateau qui l'emmène au Brésil. Et donc il écrit ça, il tente de décrire un coucher de soleil dans un état de fièvre, un petit peu. Et donc ce morceau, au départ, il était conçu comme un exercice de style, au sens strict, au sens presque scolaire du terme. Vous voyez comment Lévi-Strauss le décrit ? Donc il est sur le point de partir pour sa deuxième expédition. Si je trouvais un langage pour fixer ces apparences à la fois instables et rebelles à tout effort de description, il s'agit du jeu de lumière du crépuscule, s'il m'était donné de communiquer à d'autres les phases et les articulations d'un événement pourtant unique et qui jamais ne se reproduirait dans les mêmes termes, alors, me semblait-il, j'aurais d'un seul coup atteint aux arcanes de mon métier. Il n'y aurait pas d'expérience bizarre ou particulière à quoi l'enquête ethnographique dut m'exposer et dont je ne puisse un jour faire saisir le sens et la portée. Voilà donc le fondement de cette fascination réciproque des écrivains pour les ethnologues et des ethnologues pour les écrivains. D'un côté, le rêve d'une science capable de produire des documents vivants. De l'autre, le rêve d'une littérature capable de donner, selon les mots de Métro, aux autres la sensation de vie que doit produire le contact avec des hommes. Et avant de poursuivre ou de voir un peu qu'est-ce que ça a donné, il faut noter l'effet de chiasme, en fait, ou de chassé-croisé entre ces deux conceptions de la littérature. Puisque finalement, les ethnologues ont au fond une conception très, très instrumentale de la littérature, pour ne pas dire conservatrice. Ils la conçoivent comme une technique de description et de restitution des réalités morales. C'est une littérature transitive, hein, qui suppose une conformation du style au sujet et un travail rhétorique à destination du lecteur. Il s'agit de faire respirer au public, et on trouve l'expression « faire respirer hein, », il s'agit de faire respirer au public l'atmosphère dont eux-mêmes se sont imprégnés. Mais l'avant-garde a une conception opposée, qu'on peut qualifier justement d'anti-rhétorique. Hein, si l'ethnologie fait espérer une réinvention de la littérature, c'est parce que justement elle doit permettre de sortir de l'esthétisme, elle doit permettre de sortir de la littérature du beau style et des figures. C'est parce qu'elle peut produire une parole, enfin idéalement, elle doit être capable de produire une parole qui serait plus qu'une parole, hein, qui sorte du langage, qui déstabiliserait l'espace de la représentation. Voilà donc un rêve d'ethnologie et un rêve de littérature qui se croisent. Il reste à présent à voir si ces rêves ont pris corps et si ces promesses de réconciliation du livre et de la vie ont été tenues. Et malheureusement, la réponse est négative. Alors, je ne vais pas avoir le temps de m'étendre sur les causes de cet échec ou de ces échecs, mais je vais essayer de les décrire rapidement. Alors d'abord, le rêve du livre germe, du livre ferment. Léris aurait voulu donc que le carnet de route qu'il tient lors de sa traversée de l'Afrique devienne un document vivant. Il imagine que ce journal, tenu quotidiennement, permettra, et là je le cite, de remettre énormément de choses en question, à la fois du côté de la psychiatrie, de la psychologie et de l'ethnographie, tout en étant un acte poétique. Et initialement, dans le contrat avec Gallimard, ce journal, ce carnet de route, aurait dû s'appeler « Voyage en Afrique ». Et on sait comment Léris va finalement l'intituler. Il va appeler cela « L'Afrique fantôme ». Or, je crois que le choix de ce titre, « L'Afrique fantôme », dit très exactement, non pas le fait que l'Afrique n'existe pas, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, Léris vient de passer 2 ans en Afrique, il dit très exactement l'impossibilité du document vivant. Par nature, un document ne peut pas conserver la vie qui était la sienne, in situ, sur place. C'est une chose, bien sûr prélevée à son lieu d'origine, mais qui, arrachée à son lieu, perd son caractère virulent, perd son caractère agissant, cette capacité de contagion dont Léris rêvait. Et ça, c'est un constat que Léris fait en réalité au cours même de son voyage. Voici ce qu'il écrit le 31 janvier 1932. « Il faut que je regarde les photos qui viennent d'être développées pour m'imaginer que je suis dans quelque chose qui ressemble à l'Afrique. Ces gens nus qu'on aperçoit sur les plaques de verre, nous avons été au milieu d'eux. Drôle de mirage. Donc, autrement dit, ce qui est fantôme, ce n'est pas l'Afrique, hein, mais ce que Léris en rapporte. Et dès le début, il y a déjà des fantômes au cours du voyage. Et Léris, au moment où le musée de l'homme va ouvrir ses portes, en 1938, il va avouer, non pas ses craintes, mais presque son échec. Voici ce qu'il écrit. Alors, la citation est un peu longue, mais elle me semble intéressante et en tout cas très révélatrice. Donc Léris, sa première expérience du musée d'ethnographie, c'était le musée d'ethnographie du Trocadéro. C'était un gigantesque bric-à-brac, c'est là que Picasso a découvert l'art nègre, c'est un musée qui fascinait les avant-gardes dans les années 20. Mais bon, le musée d'ethnographie du Trocadéro est démoli, et finalement il y a ce grand musée rationnel, rationaliste, scientifique, qui ouvre ses portes, le musée de l'homme. Et Léris est partagé. D'un côté, il pense effectivement que c'est bien que l'ethnologie progresse, mais d'un autre côté, il ne peut pas ne pas avouer une sorte de remords. Et voilà ce qu'il écrit. « Le nom du nouveau musée fait craindre qu'il ait été systématiquement exclu, au profit de ces deux abstractions nommées l'art et la science, tout ce qui est fermentation de vie. Comment procéder pour que les documents, observations, objets de collection, photographies, dont la valeur est liée au fait qu'ils sont choses cueillies sur le vif, puissent garder quelque fraîcheur une fois consignés dans des livres ou mis en cage dans des vitrines ? Grâce à la photographie, qui fournit de part et d'autre l'image de ces mêmes hommes dont nous voyons ici les résidus physiques, oui, parce qu'on est au musée de l'homme, donc il y a aussi les crânes, les ossements, les squelettes. Donc, ici les résidus physiques, et là, les œuvres et les engins qui constituent les témoins de leur activité. Grâce aux artifices également, d'un astucieux étalagisme ou mise en page permettant de juxtaposer sans heurts criants objets, textes imprimés et documents iconographiques. Ainsi, ces humanités mêmes, bien qu'à l'état d'ossement, retrouvent une sorte de paradoxale vie, hein, d'être présentées à proximité de ce qui exprime concrètement leur existence sociale. Et donc, ce que nous dit Léris ici, en 1938, après être revenu d'Afrique, c'est qu'il a abandonné la littérature pour l'ethnographie, hein, il a quitté le méprisable esthétisme pour la vie pleine de l'ethnographe, mais cette vie ne s'écrit pas. Hein, elle ne subsiste pas dans le document. Donc, faute d'écrire la vie, on peut toujours rêver à des résurrections imparfaites, à une sorte de paradoxale vie fantomatique. Voilà pour le premier rêve, celui du livre ferment. Alors, le deuxième rêve, les deuxièmes promesses de réconciliation de l'ethnologie, qui consistait à transmettre par le style une atmosphère morale, un climat moral, ce qui fait la vie impalpable et insaisissable d'une société. Ce projet n'est pas davantage tenable. D'ailleurs, le coucher du soleil, aussi célèbre soit-il, le coucher du soleil au début de Triste Tropique, n'est pas intégré à Triste Tropique. Il est cité comme une tentative inaboutie et naïve, et qui a été abandonnée. Alors, pourquoi un tel échec? Pourquoi l'exercice de style, finalement, ça ne marche pas? Il y a deux ordres de raisons. D'abord, il y a un problème technique, en quelque sorte. Le projet de, selon les mots de Lévi-Strauss, vouloir communiquer à d'autres l'expérience particulière de l'enquête ethnographique se heurte à des obstacles pratiques, en fait. Comment transmettre? Quelle figure de style choisir? Comment être sûr de faire comprendre? Comment être sûr de faire respirer l'atmosphère? Comment être sûr aussi de ne pas créer une sorte de fausse complicité au détriment de la vérité? Alors, c'est un obstacle fondamental qui mériterait beaucoup de développement, mais je ne vais pas m'y attarder. Il y a un autre obstacle à ce projet de restitution de l'atmosphère morale de la société. Et c'est peut-être plus profond. En tout cas, c'est la leçon fondamentale de Triste Tropique. C'est que ce projet se heurte aux artifices du récit. Il se heurte à la fausse cohérence que le récit rétrospectif finit toujours par construire. Antoine Compagnon, l'an dernier, à plusieurs reprises, a cité cette phrase de Roquentin dans La Nausée. Pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il suffit qu'on se mette à le raconter. C'est ce qui dupe les gens. Un homme, c'est toujours un conteur d'histoire, et il cherche à vivre sa vie comme s'il la racontait. J'ai voulu que les moments de ma vie se suivent et s'ordonnent comme ceux d'une vie qu'on se rappelle. Autant vaudrait tenter d'attraper le temps par la queue. Or, Lévi-Strauss, sur le terrain, va faire une découverte exactement semblable à celle de Roquentin, ou enfin, en tout cas, à celle que Sartre attribue à Roquentin. L'échec du récit ethnographique ne tient pas d'abord au caractère intransmissible de l'expérience. mais à ce que Lévi-Strauss appelle la duperie du récit. Le récit factuel et chronologique de l'enquête crée une cohérence artificielle. Il fait passer pour nécessaire ce qui n'était qu'accidentel. En réalité, on connaît très bien, les premières lignes de Triste Tropique sont très célèbres, je et les voyages et les explorateurs. Mais si on lit précisément ce que dit Lévi-Strauss, bien sûr, il condamne l'exotisme facile, les conférences connaissances du monde, etc., etc. Mais ce qu'il attaque réellement, ce sont les principes du récit d'exploration, plus encore que les explorateurs eux-mêmes. Parce que si les récits sont fallacieux, c'est pas que les explorateurs sont menteurs, ils peuvent être menteurs, ça arrive, mais parce que le récit est par essence une forme mensongère. Et ce thème, le mensonge du récit, va servir de canevas à l'apothéose d'Auguste. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'apothéose d'Auguste, en fait, c'est un projet de... Alors il s'agit encore une fois d'Auguste et Cinna, mais pas du tout... Enfin, il s'agit beaucoup moins de la clémence d'Auguste que de Cinna lui-même. Donc c'est un projet de pièce que Lévi-Strauss écrit alors qu'il est sur le terrain, en 1938. Alors qu'il est tout seul sur le plateau, parce que ses compagnons sont retenus en arrière, les Indiens sont partis. Et donc Lévi-Strauss, en août 1938, est abandonné dans une station d'un poste télégraphique, et il commence une pièce de théâtre intitulée « L'apothéose d'Auguste », qui est une nouvelle version de Cinna. Donc Lévi-Strauss a évoqué ce projet de pièce dans Triste Tropique, et on a pu s'apercevoir à l'occasion de l'édition de la Pléiade, qui est effectivement au milieu des notes, des croquis, des carnets des notes de vocabulaire et des dessins de Hamac, Lévi-Strauss avait effectivement entrepris de réécrire Cinna en août 1938. Alors dans cette version, Cinna est un explorateur qui revient à Rome après 10 années d'aventure. Il est tout auréolé de son prestige d'aventurier qui a parcouru le monde, et Lévi-Strauss écrit « Les mondains se l'arrachent pour leur dîner », comme les explorateurs de connaissances du monde. Et pourquoi ? Parce qu'on lui prête un savoir de l'étrangeté à nul autre pareil. Donc Cinna figure évidemment, de toute évidence, une sorte de figure allégorique, de l'ethnographe de retour à sa propre civilisation. Mais Cinna sait que son prestige repose sur un mensonge. J'aurais beau mettre dans mon récit tout le vide, l'insignifiance de chacun de ces événements, il suffit qu'il se transforme en récit pour éblouir et faire songer. Pourtant ce n'était rien, la terre était semblable à cette terre et les brins d'herbe à cette prairie. Et il faut quand même noter la coïncidence chronologique, presque surréaliste. Alors qu'il est isolé à la frontière bolivienne sur le plateau du Mato Grosso, alors qu'il n'a évidemment aucune connaissance du projet de Sartre, au moment même où paraît la nausée, à l'automne 1938, Lévi-Strauss projette au Brésil une pièce de théâtre qui reprend presque mot pour mot les interrogations de Roquentin. Alors il va y avoir une issue malgré tout, quand même. Et c'est pour ça que Lévi-Strauss va écrire Triste Tropique. Elle ne va pas réécrire juste une nouvelle version de Cinna ou une autre version de la nausée. Cette solution, et je terminerai là-dessus, c'est une solution proustienne. Elle consiste à ne pas se soumettre à la fausse cohérence de la chronologie, à la duperie de la rétrospection. Et donc, plutôt que de raconter son expédition ou son séjour étape par étape, point par point, il faut en rechercher la cohérence en diffractant l'expérience, en la démultipliant et en confrontant les différents moments du passé. Pour rendre compte d'une expérience ethnographique, il faut sortir radicalement du récit de voyage et radicalement du récit tout court, et laisser l'expérience s'organiser d'elle-même, selon ses principes propres en quelque sorte. Et c'est ça qui est frappant dans Triste Tropique en réalité. Triste Tropique, c'est une sorte de montage. C'est pas du tout un récit chronologique. Si on fait attention, c'est une mosaïque qui colle, qui monte ensemble différents moments de l'expérience. Donc la subjectivité de l'enquêteur joue un rôle central dans cette réorganisation. Mais c'est pas parce que c'est un voyageur glorieux qui, progressivement, a su lever un à un les obstacles qui l'empêchaient d'accéder à la vérité de l'indigène. Mais simplement parce que sa sensibilité a été affectée par les différents aspects de son séjour sur le terrain et parce qu'il a accepté de se laisser modeler par les nouvelles conditions d'existence auxquelles il s'est soumis. Et bien sûr, comme chez Proust, la mémoire sensible va jouer un rôle central dans ce processus de décantation, ce processus de réorganisation du passé. Et voilà ce qu'on trouve au début, alors c'est pas tout à fait le début de Triste Tropique, le début de Triste Tropique, c'est les remords d'écrire un récit de voyage. Et à la fin de la première partie, Lévi-Strauss explique pourtant qu'il va raconter ses expéditions. Et voilà pourquoi. Il me semble pourtant que le trouble liquide commence à reposer. Des formes évanescentes se précisent, la confusion se dissipe lentement. Que s'est-il donc passé, sinon la fuite des années ? En roulant mes souvenirs dans son flux, l'oubli a fait plus que les user et les ensevelir. Le profond édifice qu'il a construit de ses fragments propose à mes pas un équilibre plus stable, un dessin plus clair à ma vue. Tel détail infime et ancien jaillit comme un pic, tandis que des couches entières de mon passé s'affaissent sans laisser de traces. Des événements, sans rapport apparent, provenant de périodes et de régions hétéroclites, glissent les uns sur les autres et soudain s'immobilisent en un semblant de castel dont un architecte plus sage que mon histoire eût médité les plans. Donc il y a un architecte, il y a un ordre, il est simplement plus sage que mon histoire. D'une façon inattendue, entre la vie et moi, le temps a allongé son isme. Il a fallu 20 années d'oubli pour m'amener au tête-à-tête avec une expérience ancienne dont une poursuite aussi longue que la terre m'avait jadis refusé le sens et ravi l'intimité. Et je relèverai donc pour conclure cette phrase finale. Entre la vie et moi, le temps a allongé son isme. Non pas entre mon passé et moi, non pas entre ma vie et moi, mais entre la vie et moi. Ce que nous dit Lévi-Strauss ici, c'est que le défi incarné par cette formule « écrire la vie » n'exige pas seulement un travail sur le premier terme « écrire », mais tout autant un travail sur le second, la vie. Il n'est pas impossible de réconcilier le livre et la vie, et il n'est pas impossible d'écrire la vie, mais cela suppose plus qu'un travail d'écriture, cela suppose d'abord que l'on cesse de confondre la vie avec ma vie. Je vous remercie.